À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi. Nous sommes en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, les chroniques de nos partenaires et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on revient sur les difficultés de la prévention spécialisée. Ce sera en seconde partie d'émission et tout de suite, on parle eau en compagnie de Yves Cochet qui est directeur général des services de Eau de Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un événement qui s'est passé il y a quelques semaines maintenant. C'est l'ouverture d'une nouvelle usine d'eau potable et ça nous permettra de parler un petit peu de la situation de l'eau dans la Vienne. Maintenant que les beaux jours sont arrivés, je pense qu'il y a plein de questions pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors d'abord, cette nouvelle usine d'eau potable à Curzé-sur-Vaune, c'est vrai que c'est pas tous les jours que vous inaugurez un tel projet.
Oui, tout à fait. Les usines de traitement de l'eau, on essaie d'en faire le moins possible et d'avoir de l'eau brute de la meilleure qualité possible. Donc malgré tout, on est régulièrement, de temps en temps, amené à réaliser de nouvelles usines de traitement. Là, en l'occurrence, c'était à Curzé-sur-Vaune, sur la ressource en eau qu'on appelle la Jalière.
Alors, quel investissement ça représente? Combien d'années d'études pour ouvrir une telle usine?
Alors tout d'abord, pourquoi? Ouais. Effectivement, traiter l'eau, c'est un terme un peu générique. On a deux problématiques particulières sur cette ressource. La turbidité. La turbidité, c'est la couleur de l'eau. Hein. On voit quand il pleut, les cours d'eau sont un peu marrons, etc. Ben, c'est pareil pour les sources. Un peu moins marron quand même, mais n'empêche une couleur un petit peu prononcée pour l'eau. Donc il faut traiter cette coloration, parce que c'est un critère de qualité de l'eau. Et là, en l'occurrence, on avait également des résidus de pesticides. Donc là aussi, on a des normes de qualité. Il fallait qu'on enlève ces résidus de pesticides pour que l'eau soit totalement potable. Donc ça, c'est le pourquoi. Et ensuite, le comment, effectivement, des montants relativement importants. Je vais donner un montant de cette opération, 2,3 millions d'euros. Pour 6000 habitants, au de Vienne, vous savez, sur tout le département de la Vienne. Là, on est sur un périmètre relativement restreint. On parle de Curzé-sur-Vaune, mais c'est quelques communes autour, 6 communes, à peu près 6000 habitants, 5900 habitants concernés. Donc, effectivement, un investissement quand même important pour le syndicat d'eau. Pour vous illustrer un peu, on investit 20 millions par an. Donc là, cette opération, c'est 2,3 millions spécifiquement pour juste ce projet-là.
Juste ce projet, donc 6 000 habitants seulement. Après, c'est pour pas mal d'années, j'imagine.
Oui, après, on investit sur le temps long, hein, 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec des reprises un petit peu en cours de route. Mais oui, on investit pour le temps long.
Alors, ces questions de pesticides, c'est vrai qu'ils sont présents dans toute la Vienne. Comment on arrive à régler ces questions-là grâce à cette usine d'eau potable ?
L'usine là qu'on a constituée, il y a à l'intérieur des charbons actifs. Et ces charbons actifs, c'est des matériaux particuliers, capturent les molécules de pesticides, les retiennent. Et du coup, derrière, l'eau devient potable. Donc ce type de traitement, on le rencontre quand même sur à peu près une quarantaine de sites exploités aujourd'hui par Eau de Vienne.
Ce qui est intéressant, c'est que cette usine-là, elle met ensemble différents procédés pour avoir de l'eau potable qui ne sont pas forcément présents sur toutes les usines d'eau potable. Hein. Celle-ci, il y avait besoin de traiter vraiment différentes choses.
Oui, selon la nature de la ressource en eau au départ, et les ressources en eau au départ sont assez différentes, on a 140 points de captage différents dans la Vienne. Donc certaines eaux se ressemblent, mais d'autres sont quand même assez différentes. Donc on va du très simple, j'assure une simple chloration de l'eau, et je distribue.
Donc ça, c'est pour lutter contre les bactéries?
Voilà, contre les bactéries. Donc ça, il y a toujours un traitement contre les bactéries systématiquement. Même si on n'a pas dans l'eau, il peut y en avoir dans le réseau, donc on le fait de manière préventive. Donc ça, il y a toujours le traitement contre les bactéries. Et ensuite, en fonction de la nature de l'eau brute, turbidité, pesticides, parfois c'est le fluor, parfois c'est le manganèse, parfois c'est le fer. Donc on a un peu tous les cas de figure et on adapte effectivement le traitement aux besoins spécifiques de la ressource.
Et alors, est-ce qu'il y a aussi des liens avec les agriculteurs pour réduire la pollution à l'origine?
Oui, là, on parle de curatif. Hein. On traite l'eau parce qu'elle n'est pas de bonne qualité au départ. Et après, effectivement, on a des programmes de ce qu'on appelle de reconquête de la qualité de l'eau avec le monde rural, puisque effectivement, quand on parle de pesticides, ce sont essentiellement quand même les agriculteurs qui les utilisent. À une époque, il y avait aussi les collectivités pour l'entretien des espaces verts, etc. Mais ça, c'est de moins en moins vrai, parce qu'effectivement, ce n'est plus autorisé pour les collectivités. Donc, on a des programmes de reconquête de la qualité de l'eau avec le monde agricole, et on a d'ailleurs un service dédié. On a 6 agents qui ont des collaborations, des contacts réguliers avec la profession agricole pour essayer de faire évoluer les pratiques, utiliser moins d'intrants, faire des rotations de cultures qui permettent d'avoir à la fin une eau brute de la meilleure qualité possible.
Parce que ça a un coût, hein, ces filtres charbon dont vous parliez, il faut les changer régulièrement, enfin c'est pas quelque chose qui là est sur 20-30 ans.
Non, il y a l'investissement de départ, donc ça c'est les 2,3 millions, et puis ensuite en fonctionnement, il y a des coûts de produits de traitement, les charbons, il faut les renouveler quand même régulièrement, et puis il y a la main-d'œuvre. Pour faire tourner une usine comme ça, il faut du personnel derrière, qualifié, qui doit venir quand même régulièrement sur l'usine, pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine sur l'usine, voir si tout fonctionne bien, si les réglages sont les bons, si l'eau est bien potable à la fin. Donc il y a aussi la main-d'œuvre et tout ça, ce sont des coûts de fonctionnement qui, eux, sont permanents.
Alors vous étiez venu à ce micro nous parler du chlorothalonil, effectivement un résidu de pesticides. Où on en est aujourd'hui dans la Vienne? Est-ce que des solutions apparaissent?
Alors, à l'époque où on était venu, effectivement, on découvrait un peu cette molécule dans la Vienne et ailleurs en France. Hein, c'est une molécule qui n'est pas spécifique au département de la Vienne. On attendait à l'époque un avis de l'ANSES, qui est l'autorité sanitaire de l'État, pour vérifier si cette molécule a un impact sur la santé humaine. Et cet avis a été rendu relativement récemment, fin du mois de mai. Et effectivement, cet avis de l'ANSES considère que la molécule n'a pas d'impact majeur sur la santé publique. Donc la molécule est, entre guillemets, dite non pertinente ou déclassée. Donc ça sous-entend qu'on n'a plus besoin de traiter l'eau pour la rendre potable. C'était des principes de précaution qui avaient été pris à l'époque à défaut d'avoir une connaissance scientifique sanitaire. Là, la connaissance sanitaire est arrivée. Donc la molécule est toujours là, mais l'ANSES a pu démontrer qu'il n'y avait pas d'impact sur la santé. Après, je pense que l'ARS, l'Agence régionale de santé, pourrait préciser un petit peu plus sur les questions de santé publique. Hein. Vous savez, nous, on n'est pas médecins à Haute-Vienne.
Et par contre, les inquiétudes demeurent peut-être avec ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que peut-être celle-ci toute seule n'a pas d'impact, mais les inquiétudes des écologistes ou des gens qui sont plus spécialistes effectivement des questions de santé s'inquiètent de peut-être plusieurs molécules qui peuvent s'additionner et créer des effets parce qu'elles sont nombreuses.
Oui, alors aujourd'hui, la réglementation le prend déjà en compte, puisqu'il y a un critère de qualité de l'eau qui prend la somme des pesticides, et on a donc une valeur maximum pour la somme des pesticides pris dans l'eau, ce qui permet en partie en tout cas de se prémunir de l'effet cocktail. Peut-être pas totalement parce que toutes les molécules ne sont pas encore connues et mesurées, mais en tout cas sur celles qui sont mesurées, on a un effet lié à la somme des molécules présentes dans l'eau.
Alors parlons maintenant de la quantité d'eau. On a vu les pluies là pendant 8 mois jusqu'à n'en plus pouvoir. Là, on se dit on est bien là cette fois, plus de sécheresse. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment nos nappes phréatiques, nos cours d'eau sont assez remplis pour pouvoir voir l'avenir sereinement?
Oui, on est comme tout le monde. Hein. On aime bien aussi le soleil à Haute-Vienne, même si on était quand même, faut le dire, ravis qu'il pleuve et qu'il pleuve abondamment. Ça a effectivement rechargé quand même très significativement les nappes souterraines. Alors très significativement toutes les nappes superficielles, hein, les plus hautes dans le sol. Les nappes souterraines ont pris beaucoup plus de temps à se charger. Il pleuvait et elle ne bougeait pas, le niveau ne bougeait pas. Et depuis quand même maintenant 2 mois, ces ressources sont également en hausse, à des valeurs moyennes. On n'est pas encore à des valeurs très très élevées, on a des valeurs moyennes, donc on est satisfait. Prédire l'avenir, alors c'est vrai qu'on est au mois de juin, l'été est presque déjà là. Je vais pas signer comme ça, but en blanc, devant vous et devant vos auditeurs que l'été va bien se passer. On l'espère, mais c'est quand même aussi lié à la météo qu'il va y avoir cet été. S'il pleut tout l'été, on sera triste, mais il y aura de l'eau et du coup, il n'y aura pas de compétition d'usage. Si à partir de la semaine prochaine, il fait 40 et qu'il ne pleut plus jusqu'au mois de septembre, vous voyez, en mois de septembre, je pourrais peut-être vous dire, attention, il y a quand même des difficultés, parce qu'on a quand même des ressources en eau dans la Vienne qui sont pas très abondantes. Elles sont assez superficielles. On parle de bassins versants hydrauliques qui sont relativement faibles. On est sur une forme du seuil du Poitou. Donc on est en tête de bassin versant, comme si on était en haut de la montagne, donc il n'y a pas beaucoup de stock d'eau. Et ça fait qu'on a quand même des ressources qui sont fragiles structurellement de ce point de vue.
Oui, ça veut dire qu'on est vraiment lié aux aléas climatiques très rapidement, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, on peut espérer que cette année, ça va bien se passer. Mais les années qu'on a rencontrées les années précédentes, on peut à nouveau les rencontrer l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans.
En tout cas, tous les conseils pour préserver cette eau et l'utiliser avec parcimonie sont toujours d'actualité.
Oui, tout à fait. On a d'ailleurs une campagne de communication en cours avec Grand Poitiers, hein, l'autre grand service d'eau du département de la Vienne. On a des affiches que vous pouvez peut-être voir à droite ou à gauche qui incitent effectivement nos abonnés, nos consommateurs à limiter de manière permanente leur consommation en eau. C'est aussi bon pour leur facture, hein. C'est bon pour nous, pour la ressource en eau, mais c'est aussi bon pour la facture. Moins on consomme, moins ça coûte cher.
Un grand merci Yves Cochet, donc directeur général des services de Hauts-de-Vienne, d'être venu nous parler donc de cette nouvelle usine d'eau potable à Curzé-sur-Vaune et puis de l'état de notre source en eau. Merci bien.
Merci à vous.
On continue en musique, on accueille l'été avec ce titre de Claudie, Hot Girl Summer.
Please don't call me baby, ouais, c'est Hot Girl Summer, tu peux sentir la chaleur.
Moi j'en ai marre de toutes ces conneries. Bikini si t'es pas 36, pas de décolleté si t'as pas de boobs. Je leur dis fuck avec le sourire. Regarde mes meufs, elles sont toutes fraîches. Y'a des blondes, y'a des brunettes. Arrête de baver, t'es hors jeu. Ce soir, soirée entre gonzesses.
De transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
Et on accueille tout de suite Florence Harris, qui est conseillère départementale d'opposition du groupe La Vienne en transition. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet qui vous a fait monter au créneau avec votre groupe. C'est celui de la prévention spécialisée. On a appris il y a quelques semaines, effectivement, que la dotation départementale allait baisser pour la DSEA. Quelle a été au départ votre réaction quand vous avez appris ça? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous en avez parlé avant?
Alors, quand on est en conseil départemental, avant d'adopter le budget, on se réunit en commission pour discuter du budget. Donc, moi, j'ai demandé, mais c'est quoi ces 250 000 euros qui ont été supprimés à l'ATCA pour la prévention spécialisée? Et on m'a dit, ce sont les éducateurs de rue. Et là, je peux vous dire que j'ai bondi de mon siège, parce que en fait, en France, pour toute la France, on a moins de 4000 éducateurs de rue qui font de la prévention, qui, au titre de la protection de l'enfance, c'est bien de la protection de l'enfance. Et on a plus de 150 000 policiers qui, eux, ne font plus de prévention, malheureusement, depuis l'ère Sarkozy. Donc, on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures, et qu'on parle d'enfants. Et les éducateurs de rue font un travail énorme dans les quartiers pour les aider.
Et on voit ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a pas mal d'affaires dans toute la France qui mettent en cause des mineurs. Est-ce que c'est un peu une conséquence aussi de cette absence d'encadrement, de soutien, d'accompagnement de ces mineurs, notamment dans les quartiers ?
Alors l'éducation spécialisée est toujours le parent pauvre. Tout le social est le parent pauvre en général dans notre pays. Et on a ici un département que je qualifie toujours de le département le plus radin de France. On l'a vu par exemple avec le budget du SDIS, mais là, pour tout ce qui est en fait social, on voit que si le département fait le choix, il fait un choix à chaque fois contraint d'augmenter certains budgets parce qu'il y a des besoins, parce que ça a été décidé par des mesures nationales, gouvernementales. Mais sinon, il fait le strict minimum.
Alors que ça fait partie de ses missions principales.
Ça fait partie de ses missions principales. Le social, c'est le cœur de métier du département.
Donc, cette baisse de 250 000 euros, alors il y a eu un petit peu des pourparlers. Finalement, la baisse est moins importante que prévu. Enfin, en tout cas, elle est décalée, c'est ça ?
Elle est décalée, mais ça veut dire quand même 5 éducateurs de rue en moins pour les quartiers des Trois Cités, de Belle-Jouanne à Poitiers et pour le lac à Châtellerault. Ça veut dire 400 familles couvertes en moins. C'est énorme. Et on sait que les éducateurs de rue, en fait, quand ils sont sur le terrain, c'est un travail à long terme. Il faut se faire accepter, il faut acquérir et garder la confiance des jeunes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on supprime ces postes-là dans ces quartiers-là et qu'après on fait une machine arrière, s'il y a eu une absence, par exemple, pendant 6 mois des éducateurs de rue, les nouveaux éducateurs de rue vont galérer pour réacquérir cette confiance qu'ils avaient auprès des jeunes.
La CA86 a publié un communiqué, une pétition aussi, et comprennent pas, par exemple, qu'il y ait 250 000 euros en moins pour... donc c'est 196 000, finalement, euros en moins pour la CA, mais qu'il y ait, d'un autre côté, 180 000 euros pour la flamme olympique. Est-ce qu'on peut, comme ça, mettre en parallèle deux actions ?
C'est difficile. Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. De toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'on nous reproche à nous d'être contre le sport, contre l'esprit olympique, etc. Moi, ce n'est pas du tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand même, le département devrait définir ses priorités. Et il a fait un choix politique. Et le choix politique, c'est de diminuer les crédits pour la prévention spécialisée, alors qu'on a de grands besoins.
Et est-ce qu'il y a une raison budgétaire qui s'entend de devoir réduire cette subvention ?
Alors, c'était l'argument principal que le département avançait pour nous expliquer pourquoi on diminuait ses crédits. Le problème, c'est que là, on vient d'apprendre que le département vient de dégager un excédent de 5,9 millions d'euros. Il pourrait très bien en prendre une partie et recréditer les 250 000 euros qu'il a enlevés à la CA pour continuer ses actions. Le problème, c'est que le département a décidé, va nous proposer la semaine prochaine, le 21 juin, de mettre ces 5,9 millions d'euros d'excédent en réserve. Donc rien pour la prévention spécialisée. Et c'est encore un scandale.
Est-ce que on vous écoute ? Est-ce qu'on vous entend quand vous donnez ce discours-là ?
Alors on est intervenu, bien sûr, en séance. Eh bien non, on ne nous écoute pas. On nous dit de toute façon, ce n'est pas notre compétence, c'est de la prévention de la délinquance. Moi je suis désolée, la prévention spécialisée, c'est bien de la protection de l'enfance. Parce qu'on s'occupe d'enfants. Ce sont des jeunes, des mineurs ou de jeunes adultes qui n'ont pas fini de leur cursus et tout ça. Ce sont souvent des jeunes qui sont en détresse. Les éducateurs spécialisés, ils sont là pour les empêcher d'être la proie des prédateurs comme le trafic de drogue, la délinquance, le trafic d'armes, la prostitution, etc. C'est indispensable, mais aussi ils aident les familles, ils les aident dans leurs droits, pour trouver des formations, pour être accompagné, pour empêcher des mariages forcés. Il y a vraiment un travail de fond et qui est complètement mis en l'air par cette décision. J'espère qu'elle ne sera pas irréversible, mais on est là, on agit. Nous, le groupe La Vienne en Transition, nous sommes les élus qui sommes les seuls finalement à soutenir les éducateurs spécialisés. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a une pétition, si vous voulez soutenir, mesdames les auditeurs et auditrices, enfin mesdames et messieurs les auditeurs et les auditrices, si vous voulez sauver la prévention, spécialisés, donc les éducateurs de rue, il y a une pétition en ligne sur le site sauvonslaprev86.fr.
Donc effectivement sur change.org, c'est plus de 3700 signatures pour l'instant, ils en espèrent un peu plus, 5000 au moins dans l'idéal. Prochain rendez-vous c'est le 21 juin, vous espérez que ça puisse encore bouger?
Alors on espère. Ce qu'il y a, c'est que les documents sont déjà sortis. Donc, on peut toujours, nous, proposer un amendement. Mais on est minoritaire. On est 4 dans l'opposition. Ce qu'il y a, c'est que moi, je compte surtout sur la mobilisation. Pas seulement des personnes directement concernées. Ça concerne tout le monde. Ça concerne toute la population de la Vienne. Et puis, voilà. Donc, il y a un rendez-vous devant l'hôtel du département le 21 juin. C'est le matin, c'est à partir de 9-10 heures la manifestation, enfin il y a un rassemblement. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que nous, les élus de l'opposition, la dernière fois, nous avons protesté parce que la droite départementale a décidé, le président a décidé de fermer les portes du département alors que les séances sont publiques. Donc, il n'y a eu que 3 syndicalistes qui ont été autorisés à entrer dans le bâtiment pour assister à la séance et une députée, Lisa Bellucco. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a clairement fait comprendre avec autorité, un ton très autoritaire, qu'elles étaient là, les syndicalistes, mais elles n'avaient pas le droit de prendre la parole. Et ça, c'est vraiment
dommage.
C'est
vous qui avez dû prendre la parole pour
c'est
elles.
C'est ça. J'ai lu leur déclaration pour bien faire comprendre aux élus de droite que le choix politique délibéré et conscient qui était fait était le plus mauvais du monde.
Un grand merci Florence Arricris, donc conseillère départementale d'opposition du groupe La Vienne en Transition, d'être venue nous parler de votre combat pour la prévention spécialisée de la Vienne. Merci beaucoup.
Merci.
Et tout de suite, on retrouve le Toit du Monde. Louis-Marie Bonneval accueille Farouk Abakar Moussa pour nous présenter InfoLang et le secteur interculturel de l'association.
Farouk, tu es salarié au Toit du Monde depuis quelques mois. En quoi consiste ton travail ?
Alors moi, je suis médiateur culturel et social au Toit du Monde sur InfoLang et une partie de mon temps de travail sur le secteur interculturel. Et InfoLang, c'est un projet du collectif Alpha qui permet d'informer et d'orienter des personnes en recherche de cours de français à Poitiers. J'anime tous les vendredis une permanence InfoLang à la médiathèque François Mitterrand de 14h à 17h30.
Tu as parlé du collectif Alpha, qu'est-ce que c'est ?
Pour la petite histoire, c'est un collectif qui est né en 1989. C'est un collectif qui regroupe les différents professionnels des différentes structures qui interviennent sur la question d'apprentissage du français.
Tu es actif aussi au secteur interculturel du Toit du Monde. Quel est le rôle de ce secteur ?
Alors, ce secteur permet de mettre en valeur les différentes richesses des différentes cultures qui existent à Poitiers. Ou l'importance du festival Le Monde en Fête, de Mots du Monde en Fête, pour permettre de mettre en valeur les différentes cultures à Poitiers.
Peux-tu nous raconter ton parcours personnel avant d'arriver au Toit du Monde ?
Alors, il est difficile de parler de moi, comme je l'ai dit, mais je suis centrafricain, donc j'ai fait la plus grande partie de mes études en République centrafricaine. Et c'est en 2013, suite à la guerre qu'a connue mon pays. Je suis réfugié au Tchad, c'est en 2013 où j'ai continué mes études en tant que, j'ai fait un baccalauréat littéraire en 2015-16. Suite à ce baccalauréat, j'ai fait une licence en communication d'entreprise à l'université HEC Tchad. Après cette licence, j'ai fait un master en management de ressources humaines, mais juste après ma licence, j'ai commencé aussi à travailler. Et étudie en même temps dans l'après-midi, mais le matin, je travaille en tant que chef de service de la scolarité à l'université HEC Tchad. Et c'est en 2021 que je suis arrivé en France et j'ai fait une année d'études une licence en information et communication des entreprises à l'IAE de Poitiers. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec le boulot. J'ai travaillé en tant que chargé de clientèle à Aquitel sur le produit Boursorama Banque. Suite à ça, j'ai travaillé au compte de Grand Poitiers, communauté urbaine, à la piscine de la Ganterie, en tant que médiateur. Suite à ça, j'ai travaillé à Audacia comme chargé d'accueil. Et c'est de là que j'ai rejoint le Toit du Monde pour travailler sur InfoLang. C'était en 2023, décembre 2023.
Merci beaucoup Louis-Marie Bonneval et Farouk Abakar Moussa donc pour InfoLang et le secteur interculturel du Toit du Monde. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda présenté par Kylian.
Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, la direction déchets et économie circulaire de Grand Poitiers vous invite à la mairie de Poitiers pour son exposition « La nouvelle vie des biodéchets ». Ce sera l'occasion de découvrir les pratiques qui permettent de réduire votre production de déchets ainsi que les gestes favorisant la transition écologique. À 10h, la Maison des Trois Quartiers vous invite pour une nouvelle édition du Lundi Détente. Retrouvez-y des jeux de cartes, des jeux de société, le tout autour d'un thé et d'un café et de discussions de toutes sortes. Et enfin, pour terminer la journée, le Confort Moderne vous donne rendez-vous à 20h pour un événement organisé conjointement par Jazz à Poitiers et le Conservatoire de Grand Poitiers. Vous pourrez y découvrir la classe jazz et musique actuelle du Conservatoire qui revisiteront le répertoire de Mingus et Coleman sous la direction de Jocelyn Harriman.
Merci beaucoup sur Pulsar. Retrouvez à 18h And the Tap Drips, à 19h c'est X-Bull, 20h Punks et de 21h à 23h Scrognogneux. Et puis Kylian, vous le retrouvez dès demain 8h pour Espace Matin. C'était Grégory et la réalisation technique. Merci beaucoup à lui. Aperçu aux côtés de son compatriote contrebassiste Avishai Cohen, la batteuse israélienne Roni Kaspi bat désormais de ses propres ailes aux manettes de son projet perso. La jeune artiste de 22 ans allie dans ses morceaux le groove, une voix tendre et une force de frappe redoutable. Son trio est composé à Paris avec Oxane, Oxy Cartini au clavier et synthé et Noé Bern à la basse. Voici la version concert du titre Mystics. Bonne écoute, à demain.
Wanna pick up my